Chapitre 5. Après la fête de Caillaudé, Guinica garda une attitude guindée, une gêne inhabituelle s'insinua entre elles.
« Tu sais, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, » lui dit Ephemélou.
« Iphem, c'est toi qui le regardais dès le début, » dit Guinica. Puis comme pour montrer que tout ça lui était égal, elle dit en riant qu'Ephemélou lui avait fauché son Jules sans le faire exprès. Son insouciance était forcée, elle en rajoutait, et Ephemélou était bourrelé de remords et aurait voulu se racheter. Il lui paraissait anormal que sa meilleure amie, la jolie, l'adorable et populaire Guinica, avec laquelle elle ne s'était jamais disputée, en fût réduite à simuler l'indifférence, même si son ton se teintait de mélancolie chaque fois qu'elle parlait d'Obinze.
Iphem, as-tu du temps pour nous aujourd'hui ou n'y en a-t-il que pour Obinze ?
Demandait-elle. Et ainsi, quand Guinica arriva en cour un matin, les yeux rougis et cernés, et dit à Ephemélou, « Papa dit que nous partons en Amérique le mois prochain », Ephemélou se sentit presque soulagé. Son ami allait lui manquer, mais le départ de Guinica les forcerait toutes les deux à mettre à nu leur amitié et à la revoir de fond en comble pour revenir au point où elles en étaient auparavant. Les parents de Guinica parlaient depuis un certain temps de démissionner de l'université et de recommencer à zéro aux États-Unis. Un jour qu'elle était chez eux, Ephemélou avait entendu le père de Guinica dire « Nous ne sommes pas des moutons. Ce régime nous traite comme des moutons et nous sommes en train de nous comporter comme si nous étions des moutons. Cela fait des années que je n'ai pu entreprendre de vraies recherches parce que je passe mes journées à organiser des grèves, discuter de salaires impayés et réclamer de la craie dans les salles de cours. » C'était un homme de petite taille, à la peau foncée, qui paraissait plus petit et plus brun à côté de la mère de Guinica, une grande femme aux cheveux couleur de cendre, et qui avait l'air perpétuellement indécis, comme s'il hésitait toujours entre plusieurs choix. Quand Ephemélou rapporta à ses parents que la famille de Guinica avait enfin décidé de partir, son père soupira. « Au moins, ils ont la chance d'avoir le choix. » Et sa mère ajouta, « Ils sont bénis. » Mais Guinica se lamentait et pleurait, dépeignant l'image d'une vie triste, sans amis dans une Amérique inconnue. « Je voudrais pouvoir vivre avec vous pendant qu'ils sont partis, » dit-elle à Ephemélou. Elle s'était réunie chez Guinica, Ephemélou, Raninudo, Prié et Tochi, et se tenait dans sa chambre, piochant chacune parmi les vêtements qu'elle n'emporterait pas avec elle.
« Guinica, j'espère que tu sauras encore nous parler à ton retour. » dit Prié.
Quand elle reviendra, elle sera devenue une Americana, sérieuse comme Bissi, dit Raninudo.
Elles s'esclaffèrent en entendant le mot Americana, prononcé avec jubilation, entraînant sur la quatrième syllabe, et à la pensée de Bissi, une fille de la classe en dessous de la leur, qui était revenue d'un court séjour en Amérique avec des manières affectées, feignant de ne plus comprendre le Yoruba, bredouillant un R à chaque mot d'anglais.
Mais franchement, Guinica, je donnerais n'importe quoi pour être à ta place, dit Prié. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas partir. Tu pourras toujours revenir.
À l'école, ses amies se pressaient autour de Guinica. Elles voulaient toutes l'emmener à la boutique de friandises, la voir après la classe, comme si son départ imminent la rendait encore plus attirante. Ephemélou et Guinica s'étaient attardés dans le couloir durant la récréation quand les big guys vinrent les rejoindre. Caillaudé, Obinze, Ahmed, Emenike et Ozaon.
Guinica, où vas-tu en Amérique ? Demanda Emenike.
Il était impressionné par les gens qui partaient à l'étranger. Lorsque Caillaudé était revenu d'un voyage en Suisse avec ses parents, Emenike s'était penché pour caresser ses chaussures.
« Je veux les toucher parce qu'elles ont touché la neige. »«
Dans le Missouri, » dit Guinica. « Mon père a obtenu un poste d'enseignant là-bas. »«
Ta mère est américaine, Abby ?»«
Alors tu as un passeport américain ?» demanda Emenike.
« Oui, mais nous n'y sommes pas retournés depuis la fin de ma troisième année à l'école élémentaire. »«
Un passeport américain, c'est ce qu'il y a de plus chouette, » dit Caillaudé.
Je serai prêt à troquer mon passeport britannique dès demain. »
Moi aussi, dit Yinka.
J'ai failli en avoir un, dit Obinze. J'avais 8 mois quand mes parents m'ont emmené en Amérique. Je passe mon temps à dire à ma mère qu'elle aurait dû y aller plus tôt et m'avoir là-bas.
Pas de chance, mon vieux, dit Kayode.
Je n'ai pas de passeport. La dernière fois que nous sommes partis en voyage, j'étais inscrit sur le passeport de ma mère, dit Ahmed. Moi aussi, jusqu'en 3e année de l'école primaire. Puis mon père a dit que nous devions avoir nos propres passeports, dit Ozaon. Je ne suis jamais allée à l'étranger, mais mon père a promis que j'irai pour l'université. J'aimerais bien faire ma demande de visa maintenant plutôt que d'attendre d'avoir fini l'école, dit Emenike. Ensuite, un long silence s'établit.
Ne nous quitte pas tout de suite, attends d'avoir terminé, dit enfin Yinka, et elle éclata de rire avec Kayode.
Les autres en firent autant, même Emenike, mais on décelait une pointe d'ironie derrière leur rire. Ils savaient qu'ils mentaient, qu'Emenike s'inventait des histoires de parents riches qu'il n'avait pas, tant il avait besoin de se créer une vie qui n'était pas la sienne. La conversation ralentit, s'orienta vers le professeur de maths qui ne savait pas résoudre des équations simultanées. Obinze prit la main d'Ifemelu et ils s'éclipsèrent. Ils le faisaient souvent, s'éloignant lentement de leurs amis pour aller s'asseoir dans un coin près de la bibliothèque ou marcher sur la pelouse derrière les laboratoires. Pendant qu'ils marchaient, elle voulut dire à Obinze qu'elle ne savait pas ce que signifiait être sur le passeport de sa mère, que sa mère n'avait même pas de passeport. Mais elle ne dit rien, marcha à côté de lui en silence. Il était à sa place dans cette école, beaucoup plus qu'elle. Elle était populaire, invitée à toutes les fêtes, toujours présentée lors des assemblées comme l'une des 3 premières de la classe. Et pourtant, elle se sentait différente des autres, isolée dans une brume légère. Elle n'aurait pas été là si elle n'avait pas si brillamment réussi l'examen d'entrée, si son père n'avait pas été déterminé à ce qu'elle fréquente une école qui forge le caractère et une carrière. Son école primaire avait été autre, pleine d'enfants qui lui ressemblaient, dont les parents étaient enseignants ou fonctionnaires, qui prenaient le bus et n'avaient pas de chauffeur. Elle se souvenait de l'expression d'étonnement d'Obinze, une surprise qu'il avait vite dissimulée quand il avait demandé « Quel est ton numéro de téléphone ?» et qu'elle avait répondu « Nous n'avons pas le téléphone. » Il lui tenait la main à présent, la pressant doucement. Il l'admirait parce qu'elle était différente et s'exprimait franchement, mais il ne semblait pas capable de voir plus loin que cela. Se trouver ici, au milieu de gens qui étaient allés à l'étranger, lui était naturel. Il connaissait bien les caractéristiques des autres pays, spécialement de l'Amérique. Tout le monde allait voir les films américains et échangeait de vieux magazines américains, mais lui connaissait des détails sur les présidents qui remontaient à 100 ans. Tout le monde regardait les shows américains, mais lui savait que Lisa Bonet avait quitté le Cosby Show pour jouer dans Angel Heart et que Will Smith avait un paquet de dettes avant d'être engagé dans Le Prince de Bel-Air. « Tu ressembles à une noire américaine ?» était le compliment suprême qu'il lui adressait quand elle portait une jolie robe ou était coiffée de grandes tresses. Manhattan était son zénith. Il disait souvent « Cela ne ressemble pas à Manhattan » ou « Tu devrais voir comment c'est à Manhattan ». Il lui avait donné un exemplaire de Huckleberry Finn, dont les pages étaient cornées à force d'avoir été feuilletées, et elle commença à le lire dans le bus, mais s'arrêta au bout de quelques chapitres. Le lendemain, elle le déposa sur le bureau d'Obinze d'un geste décidé. « Des âneries illisibles !»« C'est écrit dans différents dialectes américains, » avait-il dit. « Et alors, je n'y comprends toujours rien ?»« Tu dois être patiente, Ifem. Si tu t'y plonges vraiment, c'est très intéressant, et tu ne pourras plus t'arrêter de le lire. »«
C'est déjà fait. »
S'il te plaît, garde tes livres sérieux pour toi et laisse-moi lire ceux qui me plaisent. Et au passage, c'est encore moi qui gagne au Scrabble, monsieur qui lit des livres sérieux. Elle lâcha la main d'Obinze tandis qu'ils regagnaient leur classe. Chaque fois, la panique s'emparait d'elle au moindre prétexte et des événements insignifiants devenaient annonciateurs de désastres. Cette fois, c'est Guinica qui en fut la cause. Elle se tenait près de l'escalier, son sac à dos à l'épaule, son visage doré dans le soleil, et Ifemelu pensa soudain à tout ce que Guinika et Obinze avaient en commun. La maison de Guinika à l'université de Lagos, le paisible bungalow, le jardin saint de haies de Bougainvillé ressemblaient sans doute à la maison d'Obinze à Nsuka, et elle imagina qu'Obinze se rendait compte que Guinika lui convenait mieux et que cette félicité, cette chose lumineuse et fragile qui existait entre eux, disparaissait. Obinze lui dit un jour, après l'assemblée, que sa mère voulait la voir.
« Ta mère ? » demanda-t-elle stupéfaite.
« Je pense qu'elle veut faire la connaissance de sa future belle-fille. »
« Obinze, sois sérieux. Je me souviens qu'en sixième, j'avais emmené une fille à la fête de fin d'année et ma mère nous avait déposés tous les deux et avait donné à cette fille un mouchoir. Elle avait dit « Une dame a toujours besoin d'un mouchoir. » Ma mère est parfois bizarre, chat. Elle veut peut-être te donner un mouchoir.
« Obinze Madouessi !»
Elle ne l'a jamais fait, mais je n'ai pas eu de vraie petite amie auparavant. Je pense qu'elle veut simplement te voir. Elle dit que tu devrais venir déjeuner.
Ifemelu le regarda. Quelle mère, ayant tout son bon sens, pouvait demander à la petite amie de son fils de venir la voir? C'était étrange. Même l'expression « venir déjeuner » faisait partie des choses que les gens disaient dans les livres. Si vous étiez le petit ami ou la petite amie, vous n'alliez pas chez les parents, vous vous inscriviez à des cours, au club français, partout où vous pouviez vous voir en dehors de l'école. Ses propres parents, naturellement, ne savaient rien d'Obinze. L'invitation de la mère d'Obinze l'effraya et l'excita. Pendant des jours, elle se demanda ce qu'elle allait porter.
« Sois simplement toi-même, » lui dit tante Uju.
Et Ifemelu répondit « Comment puis-je être simplement moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le jour de la visite, elle resta un instant sur le seuil de l'appartement avant de sonner, espérant follement qu'ils étaient sortis. Obinze ouvrit la porte. « Salut, ma mère vient juste de rentrer. » Le salon était spacieux, les murs dépourvus de décoration à part un tableau turquoise représentant une femme au long cou coiffée d'un turban.
« C'est la seule chose qui nous appartienne. Tout le reste se trouvait dans l'appartement, » dit Obinze.
« C'est joli, » bredouilla-t-elle. « Ne sois pas nerveuse. N'oublie pas que c'est elle qui a demandé à te voir, » murmura Obinze avant que n'apparaisse sa mère. Elle ressemblait à Onyeka Unuenu, une ressemblance stupéfiante, une beauté aux lèvres pleines et au nez charnu, un visage rond encadré d'une coiffure afro, un teint parfait d'un brun chocolat profond. La musique d'Onyeka Unuenu avait bercé l'enfance d'Ifemelu et continué à faire sa joie par la suite. Elle n'oublierait jamais le jour où son père était rentré à la maison avec son nouvel album « In the Morning Light ». Le visage d'Onyeka Unuenu sur la couverture avait été une révélation pour elle. Et pendant longtemps, elle en avait suivi le contour avec son doigt. Les chansons égayaient leur appartement, transformaient son père en un être insouciant qui chantait sur des airs imprégnés de féminité, et Ifemelu ne pouvait s'empêcher de l'imaginer mariée à Onyeka Unuenu plutôt qu'à sa mère. Quand elle salua la mère d'Obinze d'un « bonjour, ma », elle s'attendait presque à ce qu'elle se mette à chanter d'une voix aussi exceptionnelle que celle d'Onyeka Unuenu. Mais elle avait une voix sourde, semblable à un murmure. « Tu as un bien joli nom, Ifemelu Nama, » dit-elle. Ifemelu resta muette quelques secondes.
« Merci, ma. »«
Traduis-le, » dit-elle.
« Le traduire ?»«
Oui. Comment traduirais-tu ton nom ?»«
Obinze ne t'a pas dit que je faisais des traductions ?»«
Du français. Je suis professeur de littérature. Pas de littérature anglaise, vois-tu, mais de littérature en anglais. » Et traduire est une sorte de passe-temps pour moi. Bon, la traduction de ton nom en anglais pourrait être « faite en des temps heureux » ou « joliment faite ». Qu'en penses-tu?
Ifemelu était incapable de réfléchir. Il y avait quelque chose chez cette femme qui lui donnait envie de dire des choses intelligentes, mais son esprit était vide.
« Maman,
Elle est venue te saluer, pas pour traduire son nom, dit Obinze avec une exaspération amusée.
Avons-nous quelque chose à offrir à boire à notre invitée? As-tu sorti la soupe du congélateur?
Allons à la cuisine, dit sa mère. Elle tendit la main et ôta une petite peluche des cheveux de son fils, puis lui tapota doucement la tête. Leur rapport naturel, enjoué, mettait Ifemelu mal à l'aise. C'était une attitude libre de toute contrainte, sans crainte des conséquences, loin des habituelles relations entre enfants et parents. Ils firent la cuisine ensemble, sa mère remuant la soupe, Obinze préparant le tapioca, tandis qu'Ifemelu restait planté à boire un Coca-Cola. Elle avait proposé de les aider, mais la mère d'Obinze avait dit « Non, ma chère, peut-être la prochaine fois. » Comme s'il était hors de question que quelqu'un l'aide dans sa cuisine. Elle était aimable et franche, mais il y avait une retenue chez elle, une hésitation à se dévoiler complètement au monde extérieur, tout comme chez Obinze. Elle avait appris à son fils à se sentir bien dans ses baskets, même au milieu d'une foule de gens.
« Quels sont tes romans préférés, Ifemelunama ?» demanda-t-elle. « Tu sais qu'Obinze ne lit que des livres américains ?»«
Maman, tu essayes seulement de me forcer à aimer celui-là. »
Il désigna un livre posé sur la table de la cuisine. « Le fond du problème » de Graham Greene.
« Ma mère lit ce livre deux fois par an. J'ignore pourquoi, » dit-il à Ifemelu.
« C'est un livre plein de sagesse. Les histoires humaines qui comptent sont celles qui durent. Les livres américains que tu lis sont des poids légers. » Elle se tourna vers Ifemelu.
« Ce garçon est trop entiché de l'Amérique. Je lis des romans américains parce que l'Amérique est l'avenir, maman. Et souviens-toi que ton mari a été élevé là-bas. »
C'était à l'époque où seuls les nuls allaient étudier en Amérique. On considérait alors que les universités américaines avaient le même niveau que les écoles secondaires en Angleterre. J'ai dû remettre cet homme à niveau après l'avoir épousé.
Mais tu laissais tes affaires dans son appartement pour que ses autres petites amies n'y mettent pas les pieds.
Je t'ai dit de ne pas prendre au sérieux les racontars de ton oncle.
Ifemelu était fascinée. La mère d'Obinze, avec son beau visage, son allure sophistiquée, son tablier de cuisine blanc, ne ressemblait à aucune des mères qu'elle connaissait. À côté, son père paraîtrait vulgaire, avec ses grands mots inutiles, et sa mère provinciale et futile.
« Tu peux te laver les mains dans l'évier, » lui dit la mère d'Obinze. « Je pense qu'il y a encore de l'eau. » Ils s'assirent à la table de la salle à manger, mangèrent du tapioca et de la soupe, Ifemelu s'efforçant, comme tante Uju le lui avait recommandé, d'être elle-même, bien qu'elle ne fût plus très sûre de ce que représentait elle-même. Elle se sentait peu digne d'intérêt, incapable de rejoindre Obinze et sa mère dans leur univers.
« La soupe est excellente, ma, » dit-elle poliment.
« Oh, c'est Obinze qui l'a préparée. Il ne t'a pas dit qu'il savait cuisiner ?»«
Si, mais je ne pensais pas qu'il savait faire la soupe, ma, » dit Ifemelu.
Obinze avait pris un petit air suffisant. Tu fais la cuisine à la maison? Demanda sa mère. Ifemelu eut envie de mentir, de dire qu'elle faisait la cuisine et adorait ça, mais elle se souvint des paroles de tante Uju.
Non, ma, dit-elle. Je n'aime pas faire la cuisine. Je peux manger des nouilles indomies du matin au soir.
La mère d'Obinze partit d'un grand rire, comme charmée par sa franchise. Et quand elle riait, elle ressemblait à Obinze avec des traits plus doux. Ifemelu mangea lentement. Elle aurait aimé par-dessus tout rester avec eux, partager leur félicité pour toujours. Le week-end, quand la mère d'Obinze faisait de la pâtisserie, l'appartement sentait la vanille. Des tranches de mangue irisées sur une tarte, des petits gâteaux bruns gonflés de raisins secs. Ifemelu remuait la pâte et épluchait les fruits. Sa mère ne faisait pas de pâtisserie, leur four abritait des cafards.
Obinze vient de dire malle, ma. Il a dit que c'est dans la malle de votre voiture, fit-elle remarquer.
Dans leur joute anglo-américaine, elle se rangeait toujours du côté de la mère d'Obinze.
Malle ne fait pas partie d'une voiture, mon cher fils, c'est une valise, dit-elle. Quand Obinze prononçait almanach avec un K, sa mère disait
Ifemelunama, je t'en prie. Dis à mon fils que je ne parle pas américain. Est-ce qu'il peut le dire en anglais?
Le week-end, il regardait des films. Il s'installait dans le salon, le regard rivé sur l'écran, et quand sa mère, de temps en temps, faisait un commentaire sur la vraisemblance d'une scène, ou sur ce qui allait se passer, ou si tel acteur portait une perruque, Obinze disait « Maman, Tchelou, laisse-nous écouter !» Un dimanche, au milieu d'un film, elle partit à la pharmacie acheter des médicaments contre ses allergies. « J'avais oublié qu'il ferme tôt aujourd'hui, » dit-elle. Dès que le moteur de la voiture démarra avec un grondement sourd, Ifemelu et Obinze se précipitèrent dans la chambre d'Obinze et s'affalèrent sur le lit, s'embrassant, se caressant, leurs vêtements relevés, écartés, à moitié retirés. Leur peau était chaude. Ils avaient laissé la porte et les jalousies des fenêtres ouvertes, prêtant l'oreille au bruit de la voiture. En quelques secondes, ils furent à nouveau habillés, de retour dans le salon. Ils mirent en marche le lecteur de DVD. La mère d'Obinze entra dans la pièce et jeta un coup d'œil à la télévision. « Vous étiez en train de regarder cette scène quand je suis partie ?» dit-elle calmement. Un silence glacial se fit, même dans le film. Puis la mélopée d'un vendeur de haricots pénétra dans la pièce à travers la fenêtre. « Ifemelu Nama, viens ici, s'il te plaît. » dit la mère en se retournant. Obinze se leva, mais Ifemelu l'arrêta. « Non, c'est moi qu'elle a appelé. » La mère d'Obinze lui demanda de la suivre dans sa chambre et de s'asseoir sur le lit. « S'il se passe quelque chose entre Obinze et toi, vous serez tous les deux responsables. Cependant, la nature est injuste avec les femmes. Un acte est accompli par deux personnes, mais s'il en résulte des conséquences, une seule emporte le fardeau. Est-ce que tu me comprends ?
Oui. »
Ifemelu gardait les yeux obstinément fixés sur le linoléum noir et blanc du sol. « As-tu fait quelque chose de sérieux avec Obinze ?»«
Non.
J'ai été jeune autrefois. Je sais ce que c'est que d'être amoureux quand on est jeune. Je veux te mettre en garde. Je sais bien que tu finiras par faire ce que tu désires. Je te conseille d'attendre. Tu peux aimer sans faire l'amour. C'est une très belle façon de montrer ses sentiments, mais qui demande de la responsabilité, une grande responsabilité. Et il n'y a pas d'urgence. Je te conseille d'attendre d'être au moins à l'université, jusqu'à ce que tu saches te contrôler un peu plus. Tu comprends ?
Oui,
dit Ifemelu. Elle ignorait ce que signifiait « se contrôler un peu plus ». Je sais que tu es une fille intelligente. Les femmes sont plus raisonnables que les hommes, et c'est toi qui devras être raisonnable. Persuade-le. Vous devriez tous les deux accepter d'attendre, afin qu'il n'y ait pas de contraintes. La mère d'Obinze se tut, et Ifemelu se demanda si elle avait terminé. Le silence résonnait dans sa tête.
« Merci, Ma, »
dit-elle. « Et quand tu voudras commencer, je veux que tu viennes me voir. Je veux savoir que tu agis de manière responsable. » Ifemelu hocha la tête. Elle était assise sur le lit de la mère d'Obinze, dans la chambre de cette femme, hochant la tête et acceptant de lui dire quand elle commencerait à coucher avec son fils. Pourtant, elle n'éprouvait aucune honte. Peut-être à cause du ton de la voix de la mère d'Obinze, un ton égal, normal.
« Merci, Ma, » répéta Ifemelu en regardant le visage qui lui faisait face, franc, tel qu'il était d'habitude. « Je viendrai. »
Elle regagna le salon. Obinze semblait nerveux, perché sur le bord de la table au milieu de la pièce.
« Je suis désolée. » Je vais lui dire deux mots quand tu seras parti. Si elle veut parler à quelqu'un, ce doit être à moi. Elle a dit que je ne devais plus jamais venir ici, que j'entraîne son fils sur une mauvaise voie.
Obinze écarquilla les yeux.
Quoi ?
Ifemelu éclata de rire. Plus tard, quand elle lui raconta ce que sa mère avait dit, il secoua la tête.
Il faut que nous lui disions quand nous commencerons ? Qu'est-ce que c'est que ces inepties ? Elle veut peut-être nous acheter des préservatifs. Cette femme perd la tête.
Mais qui t'a dit que nous commencerions un jour à faire quoi que ce soit ?